Bonjour à tous, chers auditeurs. Rebonjour à ceux qui m'ont déjà entendu ce matin. C'est Martin à l'antenne pour mon deuxième direct. Après 20 heures du direct non-stop depuis hier soir, voici un petit supplément garanti sans gueule de bois. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir le maire d'Alençon et président de la communauté urbaine, Joachim Peillot, qui, on peut le dire, est le deuxième alençonnais le plus célèbre après Aurel San. Bonjour, monsieur le maire.
Merci.
Alors, je parlais de joie et d'honneur parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est ma deuxième émission et j'interviewe déjà le maire et en plus ancien député. C'est un peu ça la magie de la radio associative. Monsieur Peillot, j'ai préparé quelques questions sur vous, la radio, Alençon, le passé, le présent et le futur. C'est un gros programme. Est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Alors, pour commencer, parlons musique. En débarquant à Pulse, il y a quelques semaines, je m'attendais à tomber sur une bande de punk à chiens, buveurs de bière dans un local sordide. Et je me suis retrouvé dans des locaux flambant neufs avec un salarié, Tony, à côté, là, hyper pro, des bénévoles investis. Bref, je me suis trompé sur toute la ligne. Quand j'ai regardé votre biographie sur Wikipédia, vous êtes un ancien directeur de prison, un ancien député, vous êtes maire d'une préfecture, président d'une CUA. Je m'attends à quelqu'un de plutôt sérieux. Est-ce que pour vous aussi, je me suis aussi trompé et qu'en fait, Joachim Peillot cache quelque part un petit côté punk?
Écoutez, je ne sais pas si j'ai un côté punk, mais quelquefois, j'ai un côté un peu rebelle aussi dans ma tête. Bon, parce que quand je vois des injustices, quand des fois, je me rebelle par rapport à ce que je peux voir. Donc, et puis, je suis curieux un petit peu. C'est-à-dire que je n'ai pas, par exemple, si on prend la musique, je n'ai pas forcément un goût spécifique. Mais je suis curieux, j'aime bien écouter, j'aime bien découvrir. Alors bien sûr, j'aime bien la chanson française, comme beaucoup de monde, mais j'aime bien également le rap parfois. Il y a des textes qui m'interpellent et qui m'intéressent. J'aime quelquefois des musiques un peu plus difficiles, plus dures pour ma génération. Ouais. Donc je suis curieux en fait.
D'accord.
Et quand je vais dans un pays étranger, mais j'aime bien découvrir, par exemple, la culture ou la musique. Donc si c'est ça le côté punk, oui, je suis un peu côté punk.
D'accord. Donc vous n'êtes pas forcément un fan des Garçons Bouchers ou de Trust. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle.
Mais Garçons Bouchers, j'ai écouté.
C'est vrai.
Et j'ai même dû acheter à l'époque des CD.
D'accord.
Que j'ai découvert dans une boutique à Montparnasse à l'époque. Il y avait une boutique qui vendait ce genre de musique. Et donc je voulais les Garçons Bouchers et je dois avoir un vieux CD des Garçons Bouchers chez moi.
D'accord, du coup, vous avez chanté La Lambada, on n'aime pas ça.
Voilà, par exemple.
Peut-être pas La Bière qu'a-t-elle fait de moi, hein, bon, j'imagine. Enfin, en tout cas, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, parce que vous avez aussi le droit à votre intimité. On a aussi... je voulais savoir aussi, avant de continuer, Radio Pulse, j'aurais aimé savoir dans quel contexte vous l'avez découverte, cette radio.
Je l'ai découverte vraiment quand je suis devenu maire d'Alençon. Même si, avant d'être maire, j'étais maire d'une petite commune, j'en avais entendu parler. Mais c'est surtout quand je suis devenu maire en 2008, où c'est là que j'ai plutôt... je me suis renseigné, j'ai écouté, j'ai même rencontré l'équipe, j'ai même également été invité pour quelques interviews. Et donc, j'ai rencontré, bien sûr, le directeur éternel.
Oui, Tony.
Tony, qui porte la radio depuis de nombreuses années.
Ouais, depuis le départ, on peut
j'avais
dire.
Découvert également des bénévoles, des jeunes qui animaient des émissions. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Donc, c'est une radio associative. Et je pense qu'il faut la soutenir, bien évidemment.
Et bien justement, à Alençon, on a la chance d'avoir un tissu médiatique qui est assez important, puisque si on parle que des radios, il y a Tendance Ouest, il y a RCF, qui est aussi une radio associative qui fonctionne en réseau. Selon vous, quel est l'intérêt, la raison d'être de Radio Pulse en particulier?
Au départ, si vous voulez, Radio Pulse, c'était quand même une radio qui était plutôt destinée à un public de jeunes, notamment avec la musique. Musique un peu actuelle ou pas actuelle, mais enfin bref. Et puis, il y a eu d'autres émissions, c'est-à-dire que je sais que, par exemple, Radio Pulse a organisé des débats sur des thèmes de société.
Oui.
Donc, je pense que c'est intéressant de faire participer, d'une part, des bénévoles à cette expérience d'être animateur d'une radio. Alors, ils passent, hein, des fois, ils restent un an, deux ans, trois ans, ou moins, ou plus. Je crois que c'est quand même intéressant. Et puis, ça développe également, je pense, le lien social. C'est-à-dire une radio associative, elle est intéressante pour ça, parce que des habitants s'approprient la radio avec des bénévoles, avec effectivement il faut un peu de professionnalisme. Je crois que Tony est un professionnel, donc il faut quand même un pilote, parce que une radio ça demande également une technique, ça demande un savoir-faire également. Et puis à côté vous avez des bénévoles qui viennent participer, qui viennent animer des émissions, et donc c'est intéressant parce que ça développe le lien social. Et puis une radio peut s'adresser à tous les publics. Moi je me souviens par exemple que Radio Pulse avait fait une émission spéciale, je crois, si j'ai bonne mémoire, sur le Neptune.
Il y a Tony qui acquiesce à côté, oui, visiblement ça lui. Il prend la parole.
Sur plusieurs séquences. Et donc moi j'écoutais parce que le Neptune ça me parlait, c'était un cabaret des années 80 ou même avant. Bernard Lavilliers d'ailleurs, qui était hier soir à Nova, l'a rappelé qu'il était venu ici à Alençon dans un petit cabaret chanter, il y avait plus de musiciens que de spectateurs, ce qu'il nous a dit. Et donc c'était plutôt orienté sur la chanson française.
Oui, bon. Il y a eu des émissions comme ça.
Le fait que Radio Bulls, qui avait plutôt une image de radio sur des musiques un peu plus, plus hard, entre guillemets, je crois que c'était... très bonne initiative, voilà, par exemple. Donc ça veut dire que c'est une radio qui peut s'adresser, qui s'adresse à tous les publics.
Très bien, je pense que vous avez fait un bon résumé, en tout cas, de la manière dont on voit, là, pour l'instant, en ce moment, en tout cas, cette radio du côté des bénévoles. Depuis hier, on fête les 20 ans de la radio, et moi, je suis arrivé dans Alençon, j'habite à Alençon depuis à peine 3-4 ans.
D'accord.
Et j'ai remarqué quelque chose, les Alençonnais aiment beaucoup regarder en arrière avec nostalgie pour parler de leur ville, un peu à la manière un peu enchantée, un monde qui aurait disparu. Ils parlent souvent des moments durs comme la fermeture des usines ou celle des magasins emblématiques, ou encore la disparition du Corso Fleury que je n'ai pas connu, mais visiblement qui était mythique. Et vous, monsieur Payot, quand vous regardez les 20 dernières années, quel fait marquant vous remémorez de notre ville ?
Il y a deux faits marquants. Il y a la fermeture de Moulinex. Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert, en fait. Et c'était une usine qui a marqué notre territoire, avec des milliers de personnes qui ont travaillé. Ma mère a travaillé à l'usine qu'on appelait Moulin Légumes au départ. Ma sœur a travaillé. Et quand j'étais au collège, j'avais des copains qui étaient... en troisième avec moi. Moi, je suis allé en seconde. Et des camarades me disent « Maintenant, nous, on va à l'école Moulinex ». Parce qu'on a préparé un CAP à Moulinex et on est embauché par Moulinex. Il y avait toute une prise en charge par cette entreprise qui, au départ, a été à l'initiative de Jean Mantelet, une entreprise familiale qui s'est renforcée. Imaginez-vous qu'à l'époque, il y avait des cars de l'usine qui allaient chercher les ouvrières, essentiellement, et les ouvriers, mais il y avait beaucoup d'ouvrières, dans le monde rural. Et dans ma petite commune où je vivais à quelques kilomètres d'Alençon, je voyais un car passer tous les matins et tous les soirs, un car Moulinex. Ouais. Donc c'était une entreprise extraordinaire. Et puis, malheureusement, en 2000, dépôt de bilan, il a fallu fermer. Moi, j'étais à l'époque élu local, j'étais conseiller départemental, ça a été pour moi un grand désespoir. Et je pensais qu'on pouvait le sauver. Et je pensais également que le gouvernement de l'époque aurait pu le sauver. Ça n'a pas été fait, mais vous voyez, c'était des milliers d'emplois en moins et on en subit toujours actuellement les conséquences. Ouais. Parce qu'effectivement, il y avait un vivier énorme. Il y avait beaucoup d'activités autour de Moulinex. Il y avait l'activité commerciale, il y avait également les cadres qui venaient, il y avait les hôtels, les restaurants, il y avait également la masse salariale qui était importante. Et donc, retrouver 1500 emplois du jour au lendemain, c'était compliqué, c'était difficile. Bien sûr. Ça, c'était un fait qui m'a marqué parce que toute ma jeunesse, il y avait Moulinex. C'était comme dans certaines villes, comme Renault au Mans. Le Mans a été bercé par Renault aussi, puis il y a eu des problèmes aussi. Donc voilà, ça c'est dommage. Et il y a eu peut-être des erreurs de fait au sein de cette entreprise lorsque Jean Mandelet est décédé. Il y avait des problèmes de stratégie également de l'entreprise. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de gâchis à mon avis aussi. Voilà. Donc moi je pense toujours aux ouvrières, aux ouvriers qui ont toujours cette nostalgie de Moulinex. Et quand on peut effectivement publier un texte ou éditer un livre ou faire une exposition, la ville est toujours à côté.
Et du coup, sur ces 20 dernières années, il y a sûrement aussi au moins un élément positif qui vous vient.
Il y a plusieurs éléments positifs. Alors, le Corso Fleury, oui, c'est une nostalgie. Quand j'étais gamin, on venait au Corso Fleury. Vous savez que la ville était bouclée et les gens payaient pour assister au défilé. Payé,
ouais.
Une somme payée. Et quand je suis revenu maire, j'ai eu envie de reprendre le Corso. Ça a été plus compliqué, mais je ne dis pas non. Pourquoi pas revoir une belle manifestation festive comme au Corso. C'est une idée qui me trotte dans la tête. Si j'avais des bénévoles, s'il y avait un comité d'organisation qui se mettrait en place, je pense que là, on pourrait le faire. Mais il faut trouver effectivement du savoir-faire.
Bien, vous lancez la perche auprès de nos auditeurs.
Voilà.
Si vous voulez relancer le Corso, contactez Fleury, monsieur le maire.
Lié à un carnaval, lié avec un défilé, je pense qu'on pourrait le faire.
D'accord.
C'était une manifestation qui était une des plus importantes de l'Ouest à l'époque, hein, le Corso Fleury. C'était énorme, énorme, énorme. C'était... Moi, j'ai vécu ça, c'était énorme.
Qu'est-ce
qu'il y a eu comme événement? Alors, moi, je ne suis pas objectif. Quand vous êtes maire, vous défendez un petit peu les projets que vous avez menés. Moi, je suis très content d'avoir mis sur pied Anova, qui est une grande salle, parce qu'au départ, on avait le parc Élan qui était complètement laissé à l'abandon et on ne pouvait plus faire de grands événements. Hier, j'étais à Nova, il y avait Lavilliers, la production m'a indiqué, mais vous avez une salle extraordinaire en termes d'acoustique. Ça a coûté quand même 13 millions d'euros. Et puis, il y a quand même la Luciole qui a été créée également avant que j'arrive à la mairie, mais qui marque quand même notre territoire. Donc, on a quand même des acteurs culturels qui marquent avec la scène nationale, à Nova. Et puis, dans les 10 dernières années, on a quand même créé un nouveau cinéma. Ça n'a pas été simple. On avait un cinéma qui était un peu fatigué au centre-ville, qui accueillait de moins en moins de spectateurs. Les habitants allaient plutôt, quelquefois, au Mans, au cinéma. Nous, on a créé une nouvelle salle. On a mis beaucoup de temps. On a mis 3-4 ans. Il y avait des recours. Je pense qu'on a réussi, par le biais de la ville, avec une subvention de la ville, de l'État, etc., on a réussi à créer une belle structure au niveau du cinéma. Donc ça, c'est des choses importantes. Et puis, il y a le volet économique. On a quand même accueilli de nombreuses moyennes entreprises. Voilà.
Ah bah d'ailleurs, j'aurai une question là-dessus un peu plus tard, justement. Je reparlerai des entreprises. On va parler du présent maintenant. Alors, c'est une question un peu plus difficile parce que je pense que tous les Alençonnais ont entendu parler du reportage qu'il y a eu sur 7 à 8 à propos du crack à Alençon. C'est un reportage qui est dur et en même temps, personnellement, j'ai trouvé équilibré parce qu'on suit le quotidien d'une personne qui est dépendante au crack. Et c'est hyper triste ce qu'il vit. Et on voit aussi à travers ce reportage. Le travail qui est mené à la fois par la préfecture, par vous, les policiers et aussi les personnels de santé qui accompagnent au quotidien, d'un point de vue médical mais aussi social, les personnes qui sont dépendantes. J'aurais souhaité recueillir votre réaction.
Alors, écoutez, concernant le crack, nous on a voulu jouer la transparence parce qu'on aurait pu fermer les yeux et il n'y aurait pas eu de reportage. On a appris par des associations d'aide qu'il y avait effectivement des personnes qui consommaient du crack. Donc c'est quand même très sérieux.
Oui, c'est vraiment une saloperie, hein, on peut le dire.
C'est une drogue très, très dure qui a des conséquences énormes sur la santé psychologique et la santé tout court. Et donc, avec monsieur le préfet, on s'est dit on ne peut pas se croiser les bras, il faut absolument qu'on lutte à la fois contre ceux qui fabriquent et qui font du trafic de drogue dure. Et puis, dans un deuxième temps, favoriser effectivement la prise en charge des personnes qui sont en addiction par rapport au crack. Donc c'était transparent. Depuis le reportage, moi j'apprends que d'autres villes plus petites qu'Alençon sont concernées également par le crack. Mais c'est un phénomène qui tend à s'amplifier. C'est parti des grosses métropoles et ça arrive vers les territoires ruraux et vers les villes moyennes. Donc on a souhaité éradiquer ce phénomène, donc ce qui veut dire que on a mis en place avec la ville et l'État un contrat de sécurité intégré. On renforce le nombre de policiers. Il y a une deuxième équipe de la BAC qui a été installée là au mois de janvier suite à nos demandes. Et puis on met en place, on fera une conférence de presse la semaine prochaine, jeudi prochain, peut-être que vous serez invité, hein, le jeudi à la préfecture, pour annoncer le plan. On va annoncer un plan qui est basé sur deux volets. Un volet de lutte contre le trafic, donc essayer de démanteler ce trafic, ça me paraît indispensable. Et puis également, un de volet prévention, également prévenir les jeunes ou les moins jeunes qui pourraient passer à l'acte, en termes de consommateurs, des conséquences de consommer cette drogue qu'on appelle la drogue du pauvre, hein, vous savez très bien, hein, qui est basée avec des produits excessivement toxiques. Donc on a un plan que nous allons mettre en place et je souhaiterais qu'on l'évalue régulièrement pour voir si effectivement si c'est efficace, etc. Donc voilà, donc si vous voulez, on n'a pas... ce qui m'a gêné, c'est le titre.
Oui, bah c'est ça. Si on regarde pas le reportage,
quand vous allez à Alençon, non, c'est pas du tout ça. Ouais. Mais effectivement, on a quelques consommateurs et on a des trafiquants qui trafiquent toutes sortes de drogues pour de l'argent facile. Et donc toutes les conséquences que nous avons eues dans un quartier, c'est par rapport à la drogue. Lorsque la police interpelle, lorsque la police dérange le trafic, quelquefois, on a des conséquences, c'est-à-dire des conséquences violentes. Et ça, c'est pas acceptable dans une démocratie. Et par conséquent, il faut absolument qu'on baisse pas les bras, qu'on continue effectivement à lutter contre le trafic des drogues, et notamment les drogues dures.
Alors justement, vous avez parlé de la préfecture et des forces de police. Il y a une question qu'on s'est posée aussi, on en discutait, les bénévoles ou les gens qui sont passés depuis hier à la radio. En fait, comment ça s'articule le travail du maire avec la préfecture, avec les ministères ? Qui fait quoi ? Parce que vous avez rôle de police, mais vous n'êtes pas la police nationale.
Alors,
donc, comment ça se passe finalement ?
Le maire, par définition, est officier de police judiciaire.
Voilà, c'est ça.
Tous les faits qui se déroulent sur la ville, il doit être informé. Bon. Il a des fonctions, mais généralement, les fonctions sont déléguées à la police nationale.
Et donc au ministère de l'Intérieur.
Pour interpeller, pour mettre en garde à vue, etc. Donc au ministère de l'Intérieur. Mais le maire est officier de police judiciaire, il peut faire beaucoup de choses. Mais bon. Et puis il a une police municipale qui a plutôt un rôle de prévention, un rôle de tranquillité et qui règle également les problèmes de vie quotidienne qui sont simples mais qui peuvent effectivement créer des nuisances par rapport aux habitants, la vitesse, le bruit et les petits trafics. D'accord. Aussi. Donc le maire, si vous voulez, participe aux réunions avec l'État. Pour vous donner un exemple, on a mis en place un groupe local de traitement de la délinquance que je co-préside avec Madame le procureur. On se réunit une fois par mois, et notamment par rapport au quartier qui est sensible comme personne. Et on invite à cette réunion tous les acteurs sociaux. On invite les services sociaux, les bailleurs sociaux, le service pénitentiaire d'insertion de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, la police et également, et on recoupe des informations. C'est-à-dire qu'on essaye on a chacun notre éthique, notre déontologie, mais on essaye d'avancer sur des cas individuels. Quand on apprend, par exemple, qu'il y a un jeune qui ne suit plus ses cours au collège, et donc on s'y intéresse. Où il est, est-ce que ses parents sont informés. Et donc, on essaye vraiment de traiter au cas par cas.
C'est ça,
donc ça, c'est une réunion avec le parquet. Et puis, il y a des réunions générales sur la délinquance, sur les faits de violence qu'on peut éventuellement observer de façon à mieux les traiter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé avec mon conseil municipal de renforcer la vidéoprotection, en sachant qu'on a mis en place une charte d'éthique. Il n'est pas question de surveiller les habitants, mais il est plutôt question de les protéger, à telle enseigne que beaucoup d'habitants nous demandent de la vidéo.
Ouais, mais en fait, par rapport à ça, je pense que je sais pas, j'aurais pas dû le dire, je pense. Encore une fois, je suis désolé, c'est ma première interview, mais il y a quand même pas mal de documentation qui tente à montrer, produite par la gendarmerie notamment, que la vidéosurveillance est peu efficace pour lutter contre la délinquance. Là, dans le reportage qu'on a vu hier, on nous parle d'un produit qui fait quelques milligrammes et qui se met dans le tissu d'un pantalon. Est-ce que le rôle politique, c'est peut-être aussi, ça serait pas aussi d'expliquer aux administrés que, en fait, la vidéosurveillance ne fait pas tout, ne montre pas une grande efficacité, et que mettre une caméra, c'est aussi mettre un agent derrière la caméra plutôt que de le mettre dans la rue.
Ce que vous savez pas, je dis pas que la vidéoprotection va éradiquer le trafic de stupéfiants. mais elle peut quand même repérer les individus qui font des allées et venues dans un immeuble et qui organisent un point de deal.
Oui, mais visiblement, la BAC connaît déjà ces individus. Oui,
mais la vidéo les aide. Bon. Quand, par exemple, on me dit que grâce à la vidéoprotection, on a évité une agression grave devant un distributeur de billets, une femme se faisait braquer et on l'a vu immédiatement, la police est déplacée, on a arrêté l'auteur, je trouve que c'est efficace. Et je peux vous assurer que vous demandez à la police, il y a des faits qui ont été élucidés grâce à la vidéoprotection et il y a des faits qui ne sont pas commis grâce à la vidéoprotection. Moi, j'étais par hasard chez des amis qui habitaient une rue dans lequel il y avait tous les week-ends des pare-brises cassés, des rétroviseurs cassés. C'est bien, on dit que c'est une délinquance du quotidien qui enquiquine quand même les habitants. Hein. Quand vous travaillez le matin, que votre voiture a les pneus crevés, etc., vous n'êtes pas très satisfait.
Non, c'est sûr, mais bon.
Et depuis qu'on a mis une vidéo au bout de la rue, eux-mêmes m'ont dit, il n'y a plus rien. Parce qu'effectivement, vous avez effectivement de la lâcheté dans les actes. Quand on se cagoule pour commettre des faits, c'est quand même lâche. Mmh. Donc voilà, et maintenant on a une vidéo et on va même mettre de l'infrarouge. Bon, voilà. Donc ceux qui respectent nos lois, ils n'ont pas de difficulté avec les vidéoprotections. C'est ceux qui... D'ailleurs, quelqu'un m'a dit que ce n'est pas efficace. Alors pourquoi, dans certains quartiers, on veut les détruire si ce n'est pas efficace?
En fait, c'est plutôt le rapport entre l'investissement qui est fait et les moyens humains qui sont nécessaires et qui sont mobilisés pour ces équipements-là. En fait, si on ne les avait pas, on aurait ces moyens, on pourrait les utiliser autrement. En fait, c'est là-dessus que les rapports de gendarmerie en fait, interrogent.
Moi, les gendarmeries, je ne sais pas. Nous, nous sommes en milieu urbain. C'est efficace. À telle enseigne que dans un quartier, une nuit, il y a eu quand même 23 voitures qui ont eu la pare-brise cassée. Dans ces rues-là, il n'y avait pas de caméra. Et donc les habitants me disent, mais s'il y avait eu une caméra ou deux, on n'aurait pas eu ces pare-brises cassées.
D'accord, donc c'est pour ce rôle dissuasif
C'est un rôle dissuasif avant tout, c'est un rôle préventif. Et puis, je peux vous assurer que la police, d'ailleurs la délinquance sur Alençon, elle se stabilise. Et il y a certains faits qui ont même diminué par rapport à ça. Je ne dis pas que ça règle tout, parce que parallèlement, il faut des moyens humains. Parallèlement, il faut renforcer la médiation. Parallèlement, il faut renforcer la prévention. Si vous voulez, la sécurité, ce n'est pas uniquement l'affaire de la police. C'est l'affaire d'une société. Moi, quand je suis allé au Danemark, par exemple, faire une mission parlementaire sur les réseaux djihadistes, et j'ai vu comment ils travaillaient. Ils travaillent différemment qu'en France. Eux, ils travaillent ensemble. Vous avez des réunions permanentes entre la police, les assistants sociaux, les médiateurs, et quand on voit que quelqu'un se radicalise, on désigne quelqu'un qui va approcher. Il y a tout un travail de prévention qui est très efficace.
Oui,
donc c'est un ensemble. Il faut à la fois renforcer la prévention et puis également rassurer. Quand, par exemple, avant de mettre la vidéoprotection, ça a été pour moi le déclencheur, quand des jeunes filles sont venues me voir en disant on ne peut plus sortir d'une discothèque sans se faire agresser près des promenades, près de la basilique Notre-Dame, dans cette rue-là, ça m'a préoccupé quand même. Bon, et depuis qu'on a mis les caméras, eh bien, ce phénomène s'est estompé. Bon, voilà, alors, il peut se reporter ailleurs, j'en conviens. Mais n'empêche que c'est... Vous savez, auparavant, quand vous mettiez les caméras, on disait « Ah bah oui, c'est des élus qui sont plutôt de telle obédience politique. »
Ah, bien sûr,
maintenant, ouais. Tous les élus, toutes les obédiences politiques, quand vous êtes à la tête d'une collectivité, vous mettez des caméras partout. Partout. Que ce soit. Et je peux vous assurer, moi j'ai des copains qui étaient maires, qui étaient absolument contre, puis quand ils voient les faits, bah, ils sont émis. Mais ce qui est important, c'est la charte déontologie. Vous savez qu'on n'a pas le droit de garder une image.
Oui, c'est
là. C'est-à-dire que les images sont stockées et c'est sur réquisition de la police, suite à un accord avec le parquet, qu'on extrait les images. Mm-hmm. Bon, et voilà, donc c'est quand même important. Il y a une charte d'éthique très, très, très importante. Mais si on peut éviter effectivement des passages à l'acte, ben on peut peut-être sauver des vies également. Vous savez, la jeune fille qui s'est fait tuer, la caméra avait détecté la présence de ce garçon. Voilà, ça a été un élément supplémentaire. C'est un exemple concret qui nous a choqués tous les Alençonnais. Une jeune fille qui se fait tuer.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais bon, malheureusement, ça, la caméra ne peut pas le prévenir. Je continue parce que...
D'accord, 2 minutes.
Il ne nous reste plus que 2 minutes. J'aimerais parler du futur maintenant. Le futur proche, alors rapidement, malheureusement, parce qu'on n'a plus que 2 minutes, parce qu'il y a aussi des réjouissances, puisqu'on va accueillir un nouvel hôpital, si je... Enfin, je me trompe pas, j'en suis sûr, maintenant on sait même où il va être. Et j'ai vu dans le dernier journal aussi qu'on allait accueillir probablement un musée ou en tout cas un espace culturel dans le château.
Alors, l'hôpital, c'est vraiment une affaire la plus importante des 10 années futures. Je me suis battu pour obtenir cet hôpital. En tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, c'était pour moi nécessaire. C'était ma première décision que j'ai prise en 2020 en faisant délibérer le conseil de surveillance pour demander la création d'un nouvel hôpital. Au début, personne n'y croyait, ou très peu. On était quelques-uns à y croire. On s'est battu, on a monté un dossier, on a eu les financements de l'État et de la région, 143 millions d'euros pour un nouvel hôpital. On vient de désigner le terrain. Donc ça a été une infrastructure fondamentale comme le pôle de santé qu'on est en train de faire au centre-ville, parce que je crois que la santé, c'est une priorité. Et pour moi, c'est une priorité. C'est vraiment une grande priorité. Donc ça, on y a travaillé. Quant au château, c'est l'histoire du CAL, c'est l'histoire pénitentiaire. Donc on a mis en place un comité scientifique. On a commencé à travailler autour du château. On a fait un parc Simone Veil quand même très beau. J'en suis à l'origine au niveau du schéma. Ensuite, ça a été mis en œuvre. Et on y travaille maintenant sur le projet, à la fois qui sera un projet culturel, un projet scientifique sur le château actuel. Oui, on espère créer un espace dédié peut-être à la culture, dédié à l'histoire également de notre cité.
D'accord, et pour l'instant, vous ne pouvez pas en dire plus sur le contenu. Alors, on n'a plus qu'une minute. Alors, en une minute, je vais vous confier un petit secret. Je suis fan de SF. Et si vous, Monsieur Pueyo, vous étiez l'auteur du livre Alençon 2043, ce serait quoi le résumé ?
Alençon 2043, pour moi, ce serait une ville durable, une ville verte, une ville il faut bon vivre, une ville où l'environnement est super protégé, une ville où on aurait tous les services publics, une ville où les habitants seraient bien accompagnés.
D'accord, donc c'est une histoire sans méchant, ça. Hein. Forcément. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir pour notre anniversaire, Monsieur Pueyo. Et je vous souhaite une bonne
anniversaire et encore longue vie pour Radio Pulse. Et dans 20 ans, je ne serai pas là. Hein.
Qui sait ? C'est le futur, vous savez, c'est de la science-fiction.
En tant que maire, en tout cas.
Merci.
Time drums hitting like a hammer. Old time something humming, summon up a banger. Never done spitting like a llama. Hold tight, massive like you're climbing up a ladder. Don't fall victim to the system. They claim altruism, but it isn't. It's all too clear in the vision how we rule by fear.